Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous Bana Okapi, un magazine que vous propose Radio Okapi en partenariat avec l'UNICEF RDC. Aujourd'hui, nous abordons un sujet préoccupant, le phénomène des enfants associés aux forces et groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces enfants enrôlés de forces ou par ruse sont les premières victimes des conflits qui ravagent notre pays. Ils sont envoyés au front en première ligne, contraints de tuer, de massacrer et de commettre l'inimaginable. Au programme de cette émission, des témoignages d'anciens enfants soldats, de reportages sur le recrutement, des interviews d'experts et des pistes de solutions pour mettre fin à ces fléaux. Restez avec nous pour en savoir plus sur ces fléaux et sur les actions entreprises pour protéger ces enfants. Sarah Soumbela est à la présentation de ce magazine, une mise en onde de Dédoné Nyangasa. Christian Mapendano-Yatris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matokimo-Felele d'Ijano. Le magazine Bana Okapi se lance sur une note de bonne humeur.
Okapi, Netabendi Yaman.
Le Nord Kivu, et plus particulièrement les zones de Beni, Butembo et Lubero, restent le théâtre de l'enrôlement d'enfants dans les groupes armés locaux et nationaux. Malgré les efforts des organisations de protection de l'enfance, ce phénomène persiste comme l'ont constaté ces organisations lors de la journée internationale de lutte contre les enfants soldats le 12 février. Dans ces dossiers que vous allez bientôt suivre, Guylaine Kassassia explore les causes de cette situation et tente de répondre à la question comment en finir avec ces fléaux.
Selon le directeur du PDDSS de la région de Beni, il y a 42 groupes armés, dont une vingtaine qui utilisent des enfants, y compris les rebelles des ADF. Omar Kavota.
Nous avons une quarantaine de groupes armés locaux dans la zone de Beni et plus d'une vingtaine utilisent malheureusement des enfants pour des fins militaires. C'est inquiétant. Nous devons pratiquement en interpeller les leaders des groupes armés à les sortir immédiatement parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité. Nous sommes en train d'appeler les groupes armés à ne plus continuer à utiliser les enfants dans l'activisme armé. Éviter d'utiliser les enfants dans toute entreprise militaire. Que ce soit au niveau des forces armées, que ce soit au niveau des groupes armés, le message est unique, cessons d'utiliser les enfants pour des fins militaires. Et nous devons les protéger, nous devons protéger leurs droits et surtout le préserver pour toute fin militaire.
Dans la région de Lubero, trois groupes armés utilisent des enfants. Il s'agit de Banabateseka, du groupe armé de victimes de massacre, et l'AFPP-AP, selon l'ONG Enfants pour l'avenir et le développement EADEV, basé dans la région. Leur nombre est estimé à une centaine, comme l'explique ici le point focal de cette ONG.
Dans les territoires de Lubero, nous continuons à faire face à l'activisme des groupes armés nationaux et étrangers. Malheureusement, tous ont des enfants parmi leurs effectifs. Nous avons compté au mois de novembre et décembre de l'année écoulée au moins 100 enfants qui sont dans les groupes armés de Banabateseka, les groupes armés des victimes de massacres et les groupes armés des FPP-AP. Ce sont les groupes armés locaux qui sont actifs dans notre territoire de Lubero parmi tant d'autres. Et ADEV constate avec regret la présence d'au moins 7379 enfants à l'âge scolaire, dont 3748 filles parmi les personnes déplacées.
Les lois et conventions internationales sont pourtant claires. Il est interdit à un enfant de prendre les armes ou de se faire enrôler dans un quelconque groupe armé sous quelque prétexte que ce soit. C'est ce que rappelle Regen Bangaye, conseiller du Parlement d'enfants de Butembo-Lubero.
Bien que nous sommes en situation de guerre, ce n'est pas aussi bien que nous puissions enregistrer les enfants dans les groupes armés, même dans nos forces de Wazalendo. temps qu'il y a des jeunes qui sont encore dans la ville, qui pouvaient d'abord être là. Nous allons appeler donc les gens de ne pas envoyer les enfants dans les groupes armés disant qu'ils vont combattre pour la paix. Donc les enfants, ils doivent être protégés de 16 ans, de 15 ans, bien qu'ils aient aussi peut-être la volonté de poser leur part pour que la paix soit retrouvée.
Pour Omar Kavota, le contexte du moment ne doit pas servir de prétexte pour la prolifération des groupes armés. C'est ainsi qu'il lance un message à tous les leaders de ces groupes armés d'adhérer au processus de démobilisation, désarmement et réinsertion sociale.
Le contexte du moment ne devait pas servir de prétexte pour justifier la prolifération des groupes armés. Voilà pourquoi le PDDRCS continue à encourager les différents membres des groupes armés à adhérer au processus de désarmement et de démobilisation à faveur de la réinsertion et la réintégration communautaire. Nous ne pouvons pas, pendant qu'il s'observe l'agression de notre pays, multiplier des groupes de manière à gêner les opérations de FRDC et de leurs partenaires contre le groupe d'agression. Par contre, nous pensons qu'on doit faire en sorte que, afin de contribuer à la paix et à la pacification de la zone, que les autres groupes qui pouvaient servir de béquilles aux terroristes ne soient plus visibles. Nous voudrions donc ici encourager les milices locales, dans leur diversité, à pouvoir rejoindre le processus de pacification, comme cela a été le cas récemment pour le groupe Mai Mai Autodéfense de Bachou, pour que nous puissions donner à notre province la paix et la sécurité qu'elle mérite.
Pour mettre fin à l'utilisation des enfants dans les groupes armés, EADEV recommande au gouvernement de pacifier la zone afin de permettre aux familles déplacées de retourner dans leur village et aux enfants de retrouver le chemin de l'école. Mais en attendant, EADEV plaide pour l'insertion de ces enfants dans les écoles formelles à travers un programme d'éducation en situation d'urgence. Cela en vue de sauver l'avenir de ces enfants dont la plupart passent des journées entières à flâner à travers les rues, ce qui les expose au recrutement forcé dans des groupes armés. Beni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
La présence d'enfants au sein de groupes armés reste une réalité préoccupante dans le Nord Kivu. Dans cette interview, Pépin Kavota, secrétaire de Ukweli Defection Committee de Beni, une structure de la fondation américaine Bridgeway, explique comment les enfants sont enrôlés dans ces groupes et comment se déroule leur réinsertion familiale après leur défection. Il s'entretient avec André Kitenge.
Pépé Kavota, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le secrétaire de Ukweli Defection Committee. Comment se fait souvent l'enrôlement des enfants dans les groupes armés, plus précisément chez les ADEF?
En fait, depuis que nous avions commencé avec ce programme de Ukweli Defection Committee, qui est une initiative de Bridgeway Foundation, tel que les décrit certains ex-otages, des fois, l'enrôlement des enfants se fait d'abord par l'attaque de certaines entités ou villages, ou même villes. Et là, lorsque l'ADEF a attaqué, il s'empare ou il part avec des enfants et ces enfants vont aller, n'est-ce pas, subir une formation pour qu'ils servent aussi des combattants. Mais aussi une autre voie, c'est que les ADEF, ils ont l'habitude, n'est-ce pas, de tromper ou c'est ce qu'on appelle par ruse. Ils peuvent tromper, n'est-ce pas, les enfants pour qu'ils acceptent d'aller sur leur rang. Et là, ils se disent qu'ils vont aller étudier en dehors du pays. Voilà les deux manières, n'est-ce pas, de réclamer des enfants. Mais aussi, il peut y avoir les troisièmes sur une adhésion volontaire. Volontaire, ça veut dire vous acceptez, n'est-ce pas, quelqu'un t'aborde comme ADEF ou collaborateur de l'ADEF, il t'aborde et puis vous y allez volontairement. Voilà comment se fait le recrutement.
Vous vous occupez plus de la sensibilisation sur la défection auprès de la population, mais aussi des autorités pour la réinsertion des ex-otages, des ADEF. Est-ce que subissez-vous des pressions ou des menaces?
Jusque-là, depuis que nous avions commencé le programme, parce que je ne suis pas seul. Je n'occupe que, n'est-ce pas, le poste d'être secrétaire de cette organisation. Et il y a plusieurs, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, sont membres. Nous avons, par exemple, la jeunesse. Nous avons des filles de femmes. Nous avons les autorités. Et nous avons des organisations de la société civile qui en font membre. Et individuellement ou personnellement, nous n'avons jamais eu de menaces venant de nulle part, et que donc nous sommes en train de travailler, parce que d'ailleurs, lorsque nous remettons les ex-otages dans leur famille, c'est la joie qui, n'est-ce pas, éblouit la famille qui reçoit les leurs.
Vous êtes également parent. Comment vous vivez cette situation d'absence des enfants qui sont pris dans les groupes armés, notamment les ADF?
Il faut dire que c'est vraiment choquant. Lorsque vous êtes à face de quelqu'un qui a été dans les ADF, quelqu'un qui a été peut-être actif ou active dans les ADF, qui, n'est-ce pas, peut-être a tué autant de personnes, mais les conditions de vie de la personne qui vous arrive, ce sont des conditions qui, n'est-ce pas, vous frustrent. Vous êtes traumatisé en voyant votre semblable qui, n'est-ce pas, vivait dans des conditions très difficiles, qui vivait, n'est-ce pas, dans des conditions un peu compliquées, et il vous arrive sans même qu'il ait à quoi manger ou même à quoi se vêtir. Et que donc, ce sont des situations de traumatisme que nous vivons, parce que le vôtre a subi les actes barbares des ADF.
Parce que vous vous occupez également de la réintégration de tous ces enfants qui peuvent venir de ces groupes armés. Dites-nous, comment se passe cette réintégration? Comment vous l'organisez?
D'abord, il faut dire que ça commence par ce que nous appelons le traçage des familles. Lorsque quelqu'un a été capturé, il faut savoir là où il était venu, là où il a été capturé, et comment entrer en contact avec sa famille. Là, effectivement, lorsque les services auront déjà travaillé avec ces ex-otages, il faudra coûte que coûte chercher leur famille. Et que donc, c'est un travail de titan qui, n'est-ce pas, ne dure longtemps, parce que le temps que les services travaillent avec ces ex-otages, il faudra connaître les lieux de provenance de tout et chacun. Mais aussi, il faut dire, dans la zone, nous avons beaucoup de UDC qui, n'est-ce pas, lorsque on remet, même si la ville de Beni, c'est la société civile ou l'UDC de Beni qui reçoit, mais nous devrions savoir, lorsque nous faisons le traçage, il est, c'est pas cet ex-otage et de tel village, est-ce que dans ce village-là, il y a un UDC? Et s'il y a un IDC, nous contactons nos collègues de cet IDC pour faire le traçage de la personne ou qui, n'est-ce pas, serait de tel village. Et que donc, voilà comment ça se fait. Et si vous avez plusieurs personnes qui ont été prises en otage, là, ça sera un travail délicat pour savoir le village de tout et chacun d'eux. Donc voilà comment ça se fait. Et puis, nous avons, n'est-ce pas, au moins l'intervention de certaines autorités pour connaître les villages de tout et chacun.
Recevez-vous de l'aide pour les accompagner dans tout ce processus?
Il faut dire que jusqu'à présent, comme IDC, il y a un seul partenaire qui d'ailleurs est l'initiateur des IDC. C'est Bridgeway Foundation qui le fait actuellement. Et ceux-là qui sont effectivement des enfants, en principe, la MONUSCO, qui, n'est-ce pas, s'occupe des enfants, elle s'en occupe pour les amener dans une des organisations de la société civile qui s'occupe des enfants. Mais les autres, qui sont déjà adultes, on nous les remet pour leur traçage et puis les remettre au niveau de leur famille.
Quels sont vos besoins et vos préoccupations pour l'avenir de tous ces enfants?
Il faut dire que lorsque les enfants viennent, d'abord, ils ont interrompu le cycle normal de la scolarité. Et là, c'est un besoin, parce que l'enfant, lorsqu'il est réintégré dans la famille, il faut qu'il retrouve encore les bas de l'école. Ça, c'est un grand besoin. Et l'autre besoin, c'est que l'enfant, lorsqu'il vient, il peut venir, n'est-ce pas, au milieu de l'année. Il faut attendre que l'année finisse pour que cet enfant soit récupéré. Et là aussi, c'est un grave besoin, parce que, par exemple, si il était ou elle était dans telle classe, il faut savoir comment aller causer avec même les autorités scolaires pour que la réintégration scolaire soit complète. Mais aussi, ils vous viennent sans habits, ils vous viennent en état un peu critique. Il faudra, n'est-ce pas, que avant tout, il faut qu'il y ait un psychologue pour essayer, n'est-ce pas, de moraliser la personne afin d'avoir une personne qui est déjà stable. Là, ce sont des besoins que nous, n'est-ce pas, nous devrions savoir et que tout partenaire est, n'est-ce pas, le bienvenu pour que ces enfants ou même les adultes puissent être bien reçus dans la communauté. Et notre chose, c'est que la sensibilisation que nous faisons, ça s'est fait par moments vers les chefs de base, aussi les autorités, mais un grand souci, c'est aussi aller à la base pour entrer en contact même avec la population qui, n'est-ce pas, accueillera ces enfants. Donc, c'est un grand besoin que nous, n'est-ce pas, nous tendons la main à tous les partenaires pour que la prise en charge soit holistique.
Pepe Kavota, merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Direction à présent Bukavu, dans le sud Kivu, où nous allons retrouver Ndali Ningela, un ancien enfant associé aux groupes armés, qui va nous partager son histoire. Aujourd'hui étudiant en dernière année de droit à l'université de la nouvelle PAC de Bukavu, il revient sur son expérience. Comment il s'est retrouvé dans un groupe armé, comment il a réussi à s'en sortir et comment il vit aujourd'hui sa réintégration. Un témoignage poignant recueilli par Rachel Kisembangu.
Bonjour Ndale.
Bonjour madame la journaliste.
Comment vous vous êtes retrouvé dans le groupe armé?
En fait, nous avons été enlevés dans un chemin de l'école, dans un petit village, dans le territoire de Fizi. Et on était à Suisse hein, et on nous a embarqués vers la forêt. Ce fut le cas, on est devenus comme ça, des enfants soldats pendant 3 ans.
Vous êtes là avec les groupes armés, mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'enfant?
Toutes les mauvaises choses qui existe, qui peut exister. Vous allez au front, vous mettez en avant, vous cuisinez, vous faites la lessive des chefs, des commandos, tout ça. Vous puisez de l'eau et parfois on vous envoie au champ pour chercher des trucs pour allumer le feu, donc les bois de chauffage, beaucoup de choses. Quand vous allez au front, c'est pour tirer. Au fond, déjà, c'est pour tirer.
Et vous avez l'espoir un jour de vous en sortir?
J'avais la foi. Et que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut espérer voir un jour. C'est ça que j'avais en tête. Je savais que Dieu, il est là, peut sauver tout le monde. Peut-être je m'en sortirai. Et ce fut le cas.
Lorsque vous avez quitté le groupe armé, vous êtes arrivé au BVS. Est-ce que vous avez des ambitions, des rêves? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête par rapport à votre futur?
J'ai fait les droits pour défendre les enfants. J'ai le rêve de défendre les enfants et les femmes. En général, les droits de l'homme, c'est ça mes ambitions.
Quand vous étiez encore cet enfant-là, est-ce que vous avez des idées de qui vous allez devenir dans quelques années?
Non, je n'avais pas ces idées. Mes droits ont été violés, j'ai été maltraité. C'est par là que j'ai commencé à avoir les idées. Quand j'ai été libéré, quand j'ai été affranchi des maltraitances dans la forêt, c'est là que j'avais commencé à avoir les idées que j'allais faire quelque chose pour les autres, pour éviter en fait les impudicités, tout ça. En fait, c'est ça.
Et qu'est-ce que la journée des enfants soldats représente pour vous qui êtes passé par là?
La journée d'enfant soldat, pour moi, vraiment, c'est quelque chose de brave que j'encourage à celui qui avait décrété cette journée. À telle enseigne qu'on arrive à démontrer comment on traite les enfants partout dans le monde. Et on lit des discours, on interpelle les gouvernements internationaux et nationaux, de ne pas maltraiter les enfants vraiment. Je trouve que c'est quelque chose de très bon. En termes de plaidoirie, c'est quelque chose de très bien pour moi.
Vous êtes en L2 droit à l'université de la Nouvelle PAC, ici à Bukavu. Comment ça se passe avec vos collègues, vos amis? Est-ce qu'ils connaissent votre histoire? Comment ça se passe au fait?
Bon, d'habitude, je n'ai pas trop d'amis là-bas. mais j'en ai un peu. Et je sais qu'il y a ceux qui connaissent l'histoire et ceux qui ne connaissent pas mon histoire. Parce que bon, mon passé, ma vie, je ne dois pas en parler à tout le monde. Et à l'université, à l'école, ce n'est pas tout le monde qui est ami de tout le monde. Donc chacun a ses amis qu'il peut partager des informations, des confidences. Donc il y a certains de mes camarades qui connaissent bien l'histoire.
Pendant votre réintégration dans la communauté, est-ce que vous avez eu à subir des injustices?
Je dirais oui, mais pas trop, parce que ça dépend de l'endroit où vous habitez, et ça dépend des gens que vous rencontrez dans la communauté, parce que parfois on change des habitations. En résumé, je dirais que c'était un peu difficile, mais je suis là, malgré tout ça, je suis là, parce que tout le monde a son histoire, et il n'y a pas d'héros sans histoire, c'est ça, pays. S'il y a encore des enfants dans des forêts, je peux leur dire qu'ils puissent continuer à se battre et espérer un jour être affranchis.
Je vous remercie et je vous souhaite bon vent.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Amoureux du magazine Bana Okapi, nous allons boucler la première partie de notre magazine.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement. Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation. Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup. Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie de votre magazine Bana Okapi, une émission consacrée à la problématique des enfants dans les groupes armés. Dans la première partie, nous avons suivi des témoignages poignants sur le mécanisme de recrutement de ces enfants. Dans cette deuxième partie, nous allons explorer les solutions pour mettre fin à ce fléau. Nous recevons le porte-parole de l'armée à Bounia et la coordinatrice nationale adjointe des opérations du programme de désarmement, démobilisation, prélèvement communautaire et stabilisation PDDRCS qui nous parleront des stratégies mises en place pour libérer ces enfants et les réintégrer dans la société. Je suis Sarah Soumbela. Je suis très heureuse de vous accompagner dans cette émission. Un programme coordonné par Christian Mapindano et Yacris, une mise en onde de Dieudonné Nyangassa et la supervision de Jean-Marc Matwaki Mofelele Dijano. Après Beni, Bukavu, les amis de Bana Okapi, votre magazine vous emmène maintenant à Bounia. De nombreux jeunes se disent consternés par la présence d'enfants au sein des groupes armés qui sévissent encore en Ituri. Ils dénoncent l'utilisation de ces enfants comme transporteurs de butin, espions ou encore récélaires par les leaders de ces mouvements. Pour ce jeune, la place des enfants est à l'école et non dans ces groupes armés. Il s'exprime au micro de Ezekiel Mouzalia.
Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Comment vous allez?
Je vais très bien, vous?
Et on vous appelle comment?
Merci. Je m'appelle Rupine Waikanijek.
D'accord.
L'élève finaliste à 4 manières de l'humanité sociale du complexe scolaire Shalom de Bounia.
Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du phénomène enfant soldat?
Oui, j'avais déjà entendu. Il y a un certain moment que coordonnent les militaires. On cherche les gens pour aller à... aux groupes armés. Alors, il y a des recommandations qu'on dit. On donne même à partir de 18 ans jusqu'à 25 ans.
C'est-à-dire que vous connaissez déjà le phénomène enfant-soldat, que c'est un phénomène qui existe?
Oui, je connais, ça existe bien sûr.
Des enfants qui sont recrutés au sein des forces et groupes armés négatifs?
Oui, 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 évidemment.
Ah. Et est-ce que tu as une idée comment ce recrutement s'est fait?
Ce recrutement s'est fait d'abord premièrement aux jeunes Il y a des conditions qu'on donne, il ne faut pas être premièrement marié, tu dois être célibataire.
Et on dit pourquoi cela? Quelle est la motivation que tu avances?
La motivation, c'est parce que pour ne pas être un peu stressé, parce que dès que tu seras à l'armée, il ne faut pas que tu commences à penser beaucoup ce qui s'est resté derrière toi, pour que tu puisses travailler directement là où tu es parti.
Et comment ces enfants sont utilisés au sein de ces mouvements? Parce qu'à un certain moment, un jour à Bounia, on a vu certains enfants, en fait, dans les rangs des miliciens.
Oui, c'est ça. Premièrement, il y a des conditions qu'on donne là-bas. Dès que tu es recruté, on commence d'abord à te former. Il y a des formations qu'on donne là-bas. Et il y a des autres qui entrent là-bas parce qu'ils ont manqué de quoi faire. Ils n'ont pas de boulot et peut-être il y a des autres qui n'ont même pas étudié. Un salaire pousse à entrer au groupe armé.
Merci, bonjour.
Bonjour, merci.
Comment vous appelez?
Je m'appelle Kassim Ekaba Jemima.
Kassim, est-ce que vous avez déjà entendu parler du phénomène enfant-soldat?
Oui, oui. Chez nous, parce que mon père est militaire, on entend souvent parler du quartier parce qu'on est non loin de la région.
Vous estimez qu'il y a encore des enfants au sein de groupes armés?
Oui, oui, il y en a encore. Dans des camps militaires, oui, il y en a.
Et pourquoi ces enfants n'arrivent-ils pas à sortir au sein de ces mouvements?
Premièrement, parce qu'il y a donc des conditions qui ne leur permettent pas. Il y a souvent des parents qui leur exigent de rester là-bas. Il y a des parents qui n'ont pas de moyens, qui amènent leurs enfants par force. Et il y a d'autres enfants qui trouvent que il n'a pas sa place dans la société et il trouve mieux aller là-bas pour survivre.
Alors, est-ce que tu connais, par exemple, une organisation nationale ou internationale qui travaille pour sortir les enfants au sein des groupes armés?
UNICEF, oui. UNICEF et d'autres, ça échappe.
Il y a d'autres organisations, justement.
Oui.
Mais vous, quelle est votre lecture, justement, un peu particulière par rapport à la situation des enfants qui sont dans la rue ici à Bounia?
Bon, premièrement, je dirais que c'est dû d'abord à la guerre. La guerre ne nous permet pas d'être à l'aise. Et si on essayait un peu de bien arranger les choses et organiser les choses, ces enfants ne seront pas là où ils sont. Le gouvernement veille sur tout ce qui est là et pour scolariser les enfants, trouver des centres de formation, ça pourrait leur aider.
Et vous, particulièrement, qu'est-ce que ces enfants font? Pensez que ces enfants que vous voyez sur la rue, des petites bouteilles sur la bouche, ils font quoi en fait?
Ils se trouvent un moyen pour se débarrasser des mauvais souvenirs qu'ils ont. Parce que quand tu vois, il y a d'autres personnes qui prennent de l'alcool, ils essayent d'oublier ce qu'ils ont. Et ces enfants, tellement qu'ils ont eu des traumatismes, ils trouvent dans des alcools là, ça peut leur aider.
Et vous pensez qu'on peut s'attendre à un avenir meilleur à ces enfants?
Non, 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 pas vraiment.
Et pourquoi?
Parce que ce sont des stupéfiants, ça ne peut pas aider. Oui.
Merci, on va écouter mademoiselle, bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez aussi?
Bah, je l'ai vu à Ganman.
Ok, et vous aussi, vous avez quoi à dire par rapport au phénomène enfant-soldat?
Bah, j'ai un peu à dire par rapport au phénomène d'enfant-soldat. Normalement, un enfant ne peut pas être recruté dans des forces armées et tout. Du coup, les causes qui amènent ces enfants à prendre ces décisions, premièrement, l'enfant n'est pas d'abord capable de prendre une décision soi-même. Ils peuvent être influencés par leurs parents.
Et vous pensez qu'ils sont envoyés par leurs parents?
Bah, d'une part, oui. Peut-être que les parents n'ont pas un peu de moyens et tout. Et puis aussi, c'est le problème de l'État, un peu, d'une part. L'État congolais n'a pas trop de militaires, des choses comme ça. Et du coup, il y a aussi des problèmes de l'insécurité qui demandent trop de forces armées et tout. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on prend ces affaires-là.
Et vous, par exemple, si on venait, on vous dit, venez, on va vous intégrer dans un groupe armé, quelle serait votre position?
Bah, normalement, non, d'abord.
Mais l'argent devant.
L'argent, vraiment, bah, vu qu'on est déjà informé sur ça, c'est pas bien, c'est tout. Là, on peut être... Mais les autres, là, ils ne sont pas encore informés. Ils le prennent quand ils ne sont pas encore informés qu'être un enfant soldat, c'est mauvais. Des trucs pareils, tu vois.
On dit par exemple, on te promet, bon, en tout cas, si tu nous rejoins, on va créer une rébellion et voilà, on va renverser le pouvoir, tu seras ministre.
Non, quand même, vu que je suis déjà informée, comme je dis, ça peut être. Mais pour une autre personne, quand il n'est pas encore informé, on peut l'influencer, non, on peut l'influencer de toi par exemple.
Merci, bonjour.
Bonjour monsieur.
Comment ça va?
Ça va bien.
Est-ce que tu connais quelques enfants qui ont été recrutés au sein des groupes armés?
Pas vraiment, je ne connais pas. Mais j'écoute souvent parler des enfants recrutés dans les groupes armés. Selon moi, quelqu'un est juste venu les proposer avec quelques sommes, disons oui. Après, s'ils sont intéressés, ils partent, mais ils ne connaissent pas que la place d'un enfant, ce n'est pas dans les groupes armés, mais c'est plutôt à l'école, en famille. Selon la Convention relative des droits de l'enfant, nous dit qu'un enfant a droit dans sa famille et non dans des groupes armés.
Alors, si un groupe armé, par exemple, venait vous intéresser, hein, on dit, venez, il y a des opportunités, il y a l'argent, tu vas creuser de l'or et tout, bon, et voilà, tu te retrouves parmi eux.
En premier lieu, s'il y a des montants qu'on propose, chacun sera d'accord. Mais si on suit les normes des choses, ce n'est pas bon qu'un enfant puisse participer à cela. Peu importe, il y a des avantages ou des inconvénients aussi, mais pour un enfant, sa place est en famille, à l'école, et les groupes armés, ça a un impact dans la psychologie de l'enfant.
Les dangers peuvent être quoi, par exemple, si pour un enfant qui est vraiment combattant, qui est utilisé par les leaders, les seigneurs de guerre, comme on les appelle?
Les dangers pour l'enfant, dans la société, il sera juste avec la mentalité des rebelles, tout ça. Il peut juste commencer à se battre sans vérifier son entourage, tout ça.
Bonjour.
Et vous avez à ajouter?
Bon, je pense que les collègues ont presque tout dit. Sauf que s'il y a peut-être quelque chose à clarifier, nous aurions peut-être à dire que pour être enrôlé dans des groupes armés, pour des jeunes gens moins de 18 ans, ils sont encore premièrement d'abord enfants et ne sont pas habilités à être enrôlés dans de tels mouvements. Ces mouvements sont vraiment rebelles et plus il y a des groupes rebelles qui se forment, et plus il n'y a pas d'ordre, et c'est pour cela que même l'Est de la RDC continue à être menacé. Et parmi ces gens, disons qu'autour de 2021 et 2022, nous avons eu la visite de Codeco ici, et tout le monde a vu, et il y avait des jeunes gens plus petits même que nous, qui étaient là en train de défiler. C'est tellement triste pour notre société, et c'est très pitoyable. Ouais.
Et vous pensez, que font ces enfants? Parce que bon, vous venez de citer Codeco, ils sont presque dans tous les groupes armés qui sont en Ituri. Hein. Vous pensez qu'est-ce qu'ils font là-bas? Bon, bien évidemment pour ceux-là qui sont encore là-bas, parce qu'il y a d'autres qui sont sortis.
Premièrement, d'abord, ils font quelque chose dont ils n'ont pas, ils ne savent pas vraiment mesurer la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, premièrement, ils partent là-bas à contre-cœur. Donc ce n'est pas de leur propre gré, de leur propre volonté. Alors, ils sont soumis à ces conditions, des fois poussés par les injonctions parentales. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent là, des fois peut-être pour l'argent.
Des fois, ils ont été enlevés. Hein. On a enlevé tout un village, et on a pris tous les enfants, voilà.
Oui, bon, l'autre point peut-être qui pourrait soutenir cette réalité serait qu'ils sont en défaillance, en déficience de nombre militaire. Et alors, ils ont besoin de recruter.
Là, on parle même des combattants.
Oui. Non, des personnes matures, des adultes, même les enfants peuvent toucher l'arme, et ils sont prêts à tout pour rassasier leur nombre de militaires.
Merci.
Merci beaucoup.
Okapi. Restons dans la même ville où plusieurs parents expriment leur inquiétude face au recrutement continu d'enfants dans les groupes armés. Ils déplorent l'absence de politique efficace du gouvernement pour prévenir ces phénomènes et s'indignent du manque de prise en charge des enfants ayant quitté ces groupes pour rejoindre la vie civile. Ce manque de soutien, selon eux, n'encourage pas les autres enfants encore présents dans les groupes armés à les quitter. Ezekiel Mouzalia les a attendus son micro.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Vous êtes parents ici à Bounia. Est-ce que vous connaissez évidemment le phénomène enfant-soldat?
Évidemment,
ouais.
Je le sais bien. C'est un phénomène vraiment qui fait rage, pas seulement à Bounia, mais aussi ailleurs, surtout à l'intérieur. Et ce phénomène ici fait à ce que les tout petits enfants soient recrutés dans des groupes armés et utilisés de manières diverses au profit de leurs leaders.
Mais est-ce que vous savez que les enfants de la RDC sont toujours recrutés dans ces mouvements? Comme vous avez dit, ce n'est pas seulement ici en Ituri, même partout.
Oui, nous voyons partout nos enfants de la RDC sont recrutés et sont utilisés abusivement, laissant les études, la scolarisation pour ces phénomènes-là enfants-soldats. Et c'est vraiment d'une manière holistique dans toutes les provinces, là où il y a surtout les activismes des groupes armés.
Mais qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Quelle lecture, vous, en tant que parent, vous faites de la situation enfant de la rue?
Mais comment
enfant-soldat?
Merci pour la question. Comme tout parent responsable, ce n'est pas un phénomène à encourager. La place des enfants, c'est à l'école. Et je crois, parfois, si les enfants arrivent à ce stade-là, peut-être que les parents n'ont pas pris leurs responsabilités en main. Et surtout que si l'enfant n'est pas à l'école, là, ça fait assez que l'enfant puisse choisir ce chemin-là qui n'est pas un bon chemin. Et c'est pour gâcher aussi son avenir.
Il y a aussi un autre facteur, hein, des jeunes qui se retrouvent abandonnés, donc se retrouvent au chômage, voilà, ils se livrent à la délinquance juvénile.
Oui, c'est la monnaie courante partout, même ici à Bounia. Trouver qu'il y a ce phénomène-là, la délinquance juvénile partout, les enfants fument, les enfants aspirent même des ressources, et tout cela contribue négativement à l'épanouissement de la jeunesse. Et cela doit être interpellé dans la conscience à la fois du gouvernement, mais aussi des parents, pour que ces phénomènes puissent définitivement prendre fin et que ces enfants-là puissent être encadrés d'une manière ou d'une autre par des structures, soit des ONG, soit le gouvernement.
Est-ce qu'il y a une solution, par exemple, pour empêcher à ces enfants de rejoindre les groupes armés?
Évidemment, il y en a. Et d'abord, comme je venais de le dire tantôt, c'est les parents qui doivent prendre les responsabilités en main, mais aussi, dans les cas d'espèce, le gouvernement doit aussi voir dans quelle mesure empêcher les enfants d'intégrer les groupes armés en collaborant avec des structures non étatiques aussi comme des ONG pour l'encadrement de ces enfants-là.
Mais comment faire concrètement? Parce qu'il y a encore des enfants qui sont là.
C'est maintenant question d'identifier et de sensibiliser à travers les médias comme vous le faites et que ces enfants-là, une fois identifiés, qu'on puisse trouver des mécanismes adéquats pour leur retrait de ces groupes armés-là, en collaborant aussi étroitement avec leurs leaders dans les groupes armés. Dans ce sens-là, les choses pourront marcher convenablement.
Toutefois, il y a ceux-là qui sont déjà sortis. Est-ce que vous connaissez certains?
Oui, il y a des enfants, une fois fatigués et de la souffrance aussi qu'ils mènent là-bas, ils se décident de sortir, mais ils sont abandonnés aussi à leur triste sort. C'est alors que c'est un appel alarmant que notre État ou le gouvernement puisse s'en saisir et voir dans quelle mesure les récupérer et voir dans quelle mesure aussi laver de leur tête ces phénomènes-là qui les a vraiment empêchés de ne pas continuer convenablement avec les études. Par ailleurs, nous voyons que ces enfants-là sont vraiment occupés par des métiers et c'est dans ce même cadre que le gouvernement doit le faire aussi.
Merci.
Je vous en prie.
Bonjour maman.
Bonjour monsieur.
Vous aussi vous connaissez le phénomène enfant soldat, je présume bien.
Bon, actuellement je ne passe pas si à l'école minière dans le cadre des soldats, non. Parce que avant de recruter, il y a toujours l'âge qui varie et on recrute les enfants en fonction de leur carte d'électeur. Et je ne pense pas qu'un mineur peut avoir une carte d'électeur.
Et savez-vous que ce recrutement s'est fait en RDC?
Oui, le recrutement s'est fait en RDC, même ici en Ituri. On recrute les jeunes alors pour servir la nation, mais dire que les mineurs, je n'ai aucune idée là-bas.
Au sein des groupes armés quand même qui sont en Ituri, il y a quand même des enfants qui sont dedans. Vous pensez que le recrutement se fait aussi comment?
Bon, les groupes armés, ça ce sont des rebelles, autrement dit. Là, il n'y a pas de critères. Là, on les ramasse seulement les jeunes déjà capables ou bien qui se savent fort. Ils sont là dans ces groupes-là.
Mais en tant que femme, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi par rapport à cette situation, phénomène enfant-soldat?
Moi, en tant que femme, tout comme la maman, ce que moi je vois avant d'abord, c'est la paix. Parce que s'il y a la paix, cela va prendre effet de soi. Parce qu'il n'aura rien à faire dans la brousse. On les laisse librement faire leurs activités, ceux qui cultivent leurs champs. Et aussi les taximènes circulent librement, qu'on puisse élargir la circulation, automatiquement cela va prendre effet.
Comment on peut faire pour empêcher ces recrutements?
Bon, pour empêcher ces recrutements...
Il y a toujours de plus en plus d'activisme, des groupes armés qui naissent par-ci par-là et voilà, qui utilisent des enfants, qui mettent les enfants donc à la première ligne.
Moi, je vais demander au gouvernement de s'appliquer dans ça, parce que ça, c'est une charge proprement dite à notre gouvernement. Ça doit être sous contrôle du gouvernement. Une fois le gouvernement impose la paix et que c'est déplacé d'abord. Parce qu'autrement, chaque groupe là se crée pour défendre leur propre communauté. On les crée aussi une fois la paix imposée et que chaque communauté rentre dans leur attitude automatiquement. C'est déjà aussi vous déposer là.
Toutefois, il y a ceux-là qui ont accepté quand même de se joindre à la vie civile. Est-ce que vous connaissez certains et leur intégration, est-ce qu'elle est facile ou bien quoi, est-ce qu'ils parviennent un peu à s'intégrer?
Bon, il y a ceux-là qui ont décidé, oui, de laisser cette vie-là parce que ce n'est pas une bonne vie. Malheureusement, le gouvernement, il paraîtrait que le gouvernement ne s'occupe pas bien d'eux parce qu'il fallait leur prise en charge, créer des centres pour ces gens-là, les adapter dans leur vie courante. Malheureusement, c'est comme si c'est négligé par le gouvernement. C'est ici que ceux qui sont même restés là n'ont pas le courage de déposer parce que leurs collègues ne sont pas bien servis.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Malgré les efforts du gouvernement provincial et de ses partenaires dans le cadre du programme PDD-RCS, les nombres d'enfants dans la rue et dans les groupes armés restent élevés en Ituri. Porte-parole de l'armée en province, le lieutenant Jules Ngongo explique cette situation par la guerre qui sévit dans la région depuis plusieurs décennies. Il s'entretient avec Ezekiel Mozalia.
Monsieur le porte-parole de l'armée en Ituri, lieutenant Jules Ngongo, bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
Alors, vous êtes justement sans ignorer la situation des enfants dits de la rue qui sont présents ici à Bounia. Certaines ONG de défense des droits des enfants les comptent par centaines ou soit des milliers qui sont ici. D'abord, comment ces enfants se sont retrouvés ici, si vous avez une petite idée?
Non, c'est la conséquence des affres de la guerre. Et surtout, c'est la guerre, les hostilités que nous avons connues un peu avant état de siège, mais aussi avec certains enfants qui ont trouvé le refuge ailleurs, dans la rue. C'est surtout aux violences inter-groupes armés, où les groupes armés se battent entre eux, ou soit ils s'attaquent à la population. C'est ce qui fait que lorsque le parent se déplace, les enfants aussi se déplacent. Et lorsque la prise en charge n'est pas totale, n'est pas holistique à ces familles-là, et on voit des cas isolés comme ça, les enfants se retrouvent dans la rue.
Et vous avez une idée comment ils vivent?
Bon, sait comment ils vivent, c'est difficile, mais nous voyons que quand déjà un déplacé, il perd de tout, il perd même son statut d'être enfant. Voilà la raison pour laquelle vous ajoutez enfant de la rue, ou qu'ils sont en conflit avec l'État dans ce sens-là.
Certains sont enrôlés dans les forces négatives, donc pour ne pas dire les groupes armés. Quelle est la position de l'armée quant à cela?
Dans deux approches que nous utilisons, si l'approche militaire, on arrive à mener les opérations pour que ces enfants soient retirés, mais aussi avec le PDDRCS, vous savez que quel que soit à la MONUSCO ou au PDDRCS, il y a aussi un programme pour les enfants qui sont dans les groupes négatifs. Mais au-delà de tout ça, vous savez que c'est une condamnation grave, parce que c'est vraiment prohibé par le droit international humanitaire. C'est même la loi de la guerre interdit que les enfants se retrouvent membres des groupes armés. Mais c'est là qu'ils recrutent les enfants. Et c'est facile, c'est crime contre l'humanité, mais aussi crime de guerre. Parce que les enfants, leur place, c'est pas dans les groupes armés, ce n'est pas aussi dans l'armée. Les enfants, leur place, c'est à l'école et aux familles. Et donc, dans ce contexte-là, avec nos partenaires, nous faisons tout pour récupérer les enfants dans les groupes armés, récupérer les enfants dans l'armée. Bon, quand il s'agit de recrutement, là, vraiment, c'est officiel, on le fait. Mais dans notre contexte ici, il y a des organisations que nous travaillons ensemble pour récupérer les enfants ou les enfants qui s'y rendent pour les encadrer, entre autres la GEDEC, vous le savez, entre autres aussi le P2RCS, mais le bouchon double dans ce sens pour retirer les enfants dans les groupes armés.
Puisque vous confirmez justement qu'il y a certains qui sont encore dans les groupes armés, il y a d'autres progressivement qui sont en train d'être retirés de ces forces négatives. Ils sont au nombre de combien peut-être les enfants qui sont déjà, que vous avez déjà peut-être sortis hein, de ces mouvements? Ou bien vous pouvez estimer leur nombre?
Les derniers rapports de PDDRCS, on avait retiré plus ou moins 20 enfants. Les derniers rapports, moi que je ne me trompe pas. Mais ce qui est vrai, il y a un nombre important. Chaque jour, quand on parle de PDDRCS, on parle de l'approche non militaire avec le dialogue, la consultation, la cohabitation pacifique, le pardon. Et ça nous arrive des fois de retirer ces enfants dans leur milieu rébellionnaire, parce qu'ils n'ont rien à voir s'ils sont recrutés. Et lorsque le groupe, tel ou tel groupe armé, intègre le processus, et donc les enfants aussi, les indépendants, sont là et on les retire des groupes armés. La fois passée, avec Flori Kitoko, le coordonnateur de PDDRCS provincial à l'intérim, il nous a expliqué qu'il y a aussi le PDDR enfant existe et ça marche pour donner une place de choix à tous ces enfants-là.
Mais quelles mesures l'armée met-elle en place pour prévenir ce phénomène d'enrôlement des enfants au sein des forces et groupes armés?
Non, nous, c'est comme si vous me demandez comment tel leader de groupe armé est venu dans ces groupes armés. Donc là, nous sensibilisons tous ces leaders des groupes armés de ne pas enrôler les enfants, parce que ça va à l'école. Et s'ils enrôlent les enfants dans les groupes armés, c'est clair, ils seront que poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Utiliser les enfants dans les groupes armés, ça, c'est vraiment interdit. Alors, d'autres mécanismes que nous faisons pour éviter cela, hormis la sensibilisation, nous cherchons seulement à faire la paix avec tout le monde. Lorsqu'il y a la paix, les enfants ne vont pas rester dans la rue. Lorsqu'il y a la paix, les enfants vont aller à l'école.
Pour finir, comment vous gérez les cas, par exemple, d'enfants à capturer ou bien des enfants qui sont libérés ou ceux qui s'échappent au sein de ces forces et mouvements négatifs?
Okay. Avant cela, nous récupérons les enfants aussi par les opérations militaires. C'est-à-dire lorsqu'on frappe les ennemis, par exemple du côté du Roumou et partout, on capture. Il nous arrive des fois de capturer les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On les amène à leur juge naturel ou à le milieu approprié dans des ONG pour encadrer les enfants. Même lorsqu'on libère les otages, il y a dessus les enfants, que nous le ramenons, ramenons ces enfants dans leur milieu. Quand ils sont identifiés, on les ramène dans leur famille. Mais avant cela, il y a un travail qui s'est fait pour le mettre dans l'ambiance de l'intégration. Et enfin, il y a des ONG qui encadrent ces enfants.
Pour les cas, par exemple, des enfants qui sont ici à Bounia, vous voyez, certains ont déjà atteint l'âge, je peux dire, adulte, donc 17-18 ans. Ces enfants sont les conséquences, justement, des conflits qui sévissent depuis des années ici à Ituri. Est-ce qu'à ce stade, à ce contexte sécuritaire actuel, vous ne craignez pas quelque chose pour l'avenir de ces enfants?
Évidemment, c'est ce que nous avons toujours déploré, que lorsqu'il y a la paix, la vie sera bonne. Alors, ces enfants-là n'ont rien fait pour se retrouver là-bas. Nous, en tant que l'État, en tant que l'administration militaire, nous les mettons dans des structures d'encadrement. Nous avons appuyé beaucoup de structures qui encadrent les jeunes, qui encadrent les enfants, où ces enfants, s'ils se trouvent là-bas, ils gagnent en termes d'encadrement, en termes d'éducation, et puis les réintégrer dans des familles, soit des familles d'accueil, soit aussi, quand ils sont identifiés, on les remet dans leur famille, et nous, à travers les ONG, à travers nos partenaires, l'UNICEF, tous ces mondes-là, on travaille dans ce sens, et puis, ils intègrent la famille. Et ça, on a enregistré beaucoup de cas pendant cette période de l'état de siège, il faut le dire, que beaucoup ont retrouvé d'abord le lien pour l'encadrement, et beaucoup ont appris le métier. Ils apprennent le métier, et puis c'est ce qui fait que, petit lentement et sûrement, il y a une intégration totale de ces enfants, jadis dans les groupes armés, mais aujourd'hui, ils sont dans la vie normale.
Merci.
C'est moi.
Amis à l'écoute, votre émission consacrée à la problématique des enfants dans le groupe armé se poursuit. Allons à présent à Djougou, toujours dans la province de l'Ituri. 1130 combattants ont été démobilisés le mois dernier. Aucun enfant n'a été recensé parmi eux. La coordinatrice nationale adjointe du PDD-RCS, Marie-Chantal Lumba-Chimanga, attribue cela aux efforts de sensibilisation et à la stratégie d'aider enfants visant à protéger les enfants en collaboration avec les communautés locales. Marie-Chantal Lumba a accordé une interview à Rachel Kisemba.
Madame Marie-Chantal Lumba-Chimanga, bonjour.
Bonjour.
Le PDDRCS a récemment lancé le processus DDR des combattants des groupes armés dans la province de l'Ituri. Quelles en sont les avancées à ce jour?
De prime abord, je voudrais d'abord signifier que la coordination nationale, qui a des nouveaux acteurs, c'est depuis décembre 2024, qu'il a plu au chef de l'État de pouvoir nous nommer au sein de cette coordination. Le coordinateur national, c'est Jean des Dieux Tita. Moi, je suis en charge des questions techniques et opérationnelles. Et nous avons aussi un collègue, William Balika, qui est en charge des questions administratives et financières. Pour revenir à votre question concernant le processus de DDR, il faut dire que c'est un processus qu'on est en train de poursuivre. Ce n'est pas qu'on a démarré, mais ça avait commencé depuis un moment. Mais nous sommes arrivés à l'étape de démobilisation, parce qu'il y a d'abord le désarmement, la démobilisation, le relèvement communautaire et la stabilisation. Et nous étions maintenant à l'étape de la démobilisation. Et nous sommes partis dans la province de l'Ituri, où nous avons pu démobiliser 1130 combattants qui ont reçu leur carte de démobilisation. Parmi ces ex-combattants, il y a environ 44 femmes. Et ça s'est passé dans le territoire de Djougou. Ça s'est passé tellement bien parce qu'on ne s'imaginait pas qu'il y aurait autant d'engouement. Et on a compris que cette population et les communautés sont épris de paix et ont envie de changer la donne et de pouvoir s'investir dans les programmes de réinsertion et de relèvement communautaire. Il faudrait dire que j'en profite pour féliciter le gouverneur de province, son excellence Johnny Muboyahi, qui est général, comme nous savons que c'est une province qui est en état de siège, qui a été d'un appui inconditionnel afin que ce processus se passe dans le respect des normes internationales standards. Et aussi, je voudrais ajouter à cela que nous sommes en train de préparer des opérations incessamment dans le Nord Kivu, vers Beni et Lubero.
Vous avez parlé de 1130 combattants démobilisés. Parmi ces combattants, y a-t-il des enfants?
Je pourrais vous dire, j'ai été agréablement surprise de constater qu'il n'y avait pas d'enfants. Cela prouve qu'il y a eu suffisamment de sensibilisation. Et à ce titre-là, je voudrais remercier toutes les structures qui sont impliquées dans la sensibilisation. Comme vous le savez, ce processus de DDR et stabilisation demande l'implication de plusieurs acteurs, membres de la société civile, les leaders religieux, les associations des jeunes, sans oublier les autorités locales qui sont aussi très importantes, et les autres acteurs, bien sûr, les leaders des groupes armés qui ont aussi un rôle très important à jouer. Et il faudrait dire que j'espère que grâce à cette sensibilisation qui se poursuit, nous n'avons enregistré aucun enfant lors de cette dernière étape de démobilisation.
Existe-t-il une stratégie gouvernementale à travers le PDDRCS pour lutter contre le phénomène enfants associés aux forces et groupes armés?
Bien sûr, et nous avons un cadre opérationnel de DD enfants et qui est révisé et qui s'adapte au contexte à chaque moment. La dernière révision que nous avons eu à faire, elle était en 2023, mais nous continuons à rencontrer tous les acteurs, toutes les parties prenantes, afin de pouvoir la mettre à jour au regard du contexte actuel. Il faudrait dire aussi que l'approche de DDR a également changé. Avant, on faisait une approche qui était sur des sites, mais maintenant, on le fait de manière communautaire. Donc, c'est nous qui allons vers les communautés pour pouvoir, s'il y a des enfants, les séparer directement et voir, les remettre aux structures qui sont appropriées et pour une réinsertion. Donc, il faudrait vous dire que la stratégie, le cadre opérationnel existe, mais il s'adapte, bien sûr, au contexte de chaque province et de chaque communauté.
Nous voudrions aussi savoir comment vous travaillez avec les groupes armés pour obtenir la libération de ces enfants.
C'est un travail de fourmi, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les membres de communauté sont impliqués pour protéger les enfants. Parce que cette question est tellement sensible. Nous savons que les enfants, c'est l'avenir de demain. Et c'est très, très important que chacun y mette sa pierre. Et nous pourrons dire que toutes les organisations, que ce soit la MONUSCO, que ce soit les organisations locales, les communautés, tous les membres ont un rôle à jouer. Et avec les groupes armés, il faudrait dire qu'on a des contacts directs qui nous permettent de pouvoir les rencontrer et leur expliquer qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous recherchons pour la protection des enfants. Donc il faut dire que ça passe en grande partie par la sensibilisation, que ce soit interpersonnelle, même en utilisant les canaux de communication comme les médias traditionnels, la radio, la télévision, les réseaux sociaux qui sont d'actualité, avec les Twitter, Facebook, qui sont des forums qui permettent aussi de passer des messages et sensibiliser ces chefs de groupes armés.
Quels sont les défis spécifiques liés à leur réintégration, ces enfants, puisque nous sommes vraiment focus sur les enfants?
C'est tout un processus. C'est un processus. Dès que l'enfant est séparé du groupe armé, il y a tout un programme qui doit suivre. Et les défis, les premiers défis qu'on peut avoir, c'est d'abord la mobilisation des ressources. Parce que les personnes, nous en avons. Les personnes qui ont les compétences et qui ont l'amour de protection des enfants. Mais les ressources, souvent, ne suivent pas assez. Et c'est ainsi que nous sommes vraiment impliqués à pouvoir mobiliser suffisamment des ressources afin que ces enfants soient suivis, non seulement au niveau lorsqu'ils sont séparés, mais aussi lorsqu'ils sont réunis dans leur famille d'accueil ou dans leur famille biologique. Et de ce côté-là, je voudrais aussi signaler que nous devons mener encore des efforts pour une prise en charge psychologique, une prise en charge aussi des besoins spécifiques, parce que nous savons qu'il y a des filles, il y a des garçons, et souvent il faut faire attention à ce que tous les besoins soient pris en compte. Et aussi, ce qui est très important à signaler, c'est continuer la sensibilisation, pour que toutes les parties prenantes dans ce processus de réinsertion d'un enfant puissent davantage s'impliquer et qu'on arrive à trouver les ressources qui soient nécessaires pour que l'enfant puisse vraiment vivre dans son milieu naturel et pouvoir ressortir ses potentialités. Parce qu'un enfant, c'est quelqu'un qu'on doit encadrer afin qu'il puisse mieux s'épanouir.
Vous avez déjà amorcé la question de suivi. Comment assurez-vous le suivi des enfants après leur remise aux agences de protection et d'encadrement des enfants?
Le suivi se fait de plusieurs manières. Ça peut se faire à travers des réunions avec ces agences, mais aussi ce qui est important, c'est d'aller sur terrain pour voir ce qui se passe réellement. Et à ce niveau-là, nous travaillons avec les leaders communautaires, les leaders religieux, parce que nous, en Afrique, nous savons que quand une femme donne naissance à un enfant, l'enfant devient l'enfant de la communauté. C'est vraiment un aspect culturel que nous préservons et que nous entretenons pour que chaque enfant qui a été séparé d'un groupe armé, quand il retourne dans la communauté, ça devient un enfant de la communauté et qui n'est pas différent des autres enfants. Donc nous faisons des programmes afin que tous les enfants puissent travailler ensemble, se retrouver ensemble. Et si vous faites l'expérience, si vous quittez un quartier A pour aller vous déménager dans un quartier B, vous trouverez que les enfants facilement arrivent à se faire des amis que les adultes. Alors c'est toute cette structure, toutes ces facilités que les enfants nous permettent, que nous utilisons pour pouvoir faire le suivi et aussi pour pouvoir s'assurer que l'enfant se trouve entre des bonnes mains.
Y a-t-il de mécanismes de protection mis en place pour éviter leur réenrôlement?
Ça, c'est une question très pertinente. Et à cela, je pense que tout se base d'abord sur la volonté des adultes. Il faut que les adultes que nous continuons à sensibiliser se rendent compte que la place d'un enfant, c'est à l'école, c'est dans les familles et non un porteur d'armes. Et cette conscientisation, c'est un travail de tous. Et c'est là où se base même la prévention. À part le fait que l'enfant soit encadré avec des projets de réinsertion et qu'on puisse suivre ces projets, mais surtout, c'est cette prise de conscience des adultes qui puissent se rendre compte qu'un enfant, c'est l'avenir de demain et que nous devons travailler dès la base pour que notre lendemain soit meilleur.
Nous allons terminer par là. Comment évaluez-vous l'efficacité de votre programme, précisément en matière des luttes contre le phénomène enfant associé aux forces des groupes armés?
Là, je voudrais revenir sur des chiffres qui sont assez éloquents. Pour vous dire d'abord qu'à ce jour, nous avons déjà séparé 10 471 enfants, dont 2 999 filles. Ces chiffres-là sont assez éloquents pour vous dire que ça, c'est une préoccupation du programme. Et nous faisons un effort pour que toutes les parties prenantes se rendent compte que l'avenir d'un enfant est une préoccupation de ce programme. Et à ce niveau-là, il faudrait dire que nous travaillons en synergie, parce que ce programme sans synergie n'est pas possible. Et nous, nous assurons souvent la coordination de toutes ces activités afin que les enfants soient protégés et ne soient pas réenrôlés, ne soient pas ré-recrutés, mais qu'ils puissent vivre dans une société et d'être aussi des moteurs de développement. Parce que l'enfant doit aussi participer à un certain âge à pouvoir travailler pour la stabilité. Donc, de manière globale, il faudrait dire que tout se base sur la synergie, la collaboration et l'écoute de l'autre.
Madame Marie-Chantal Lumbachimanga, je rappelle que vous êtes coordonnatrice nationale adjointe chargée des questions techniques et opérationnelles. Je vous remercie.
Je vous remercie.
C'est déjà la fin de cette édition de Bana Okapi. Aujourd'hui, nous avons exploré la réalité difficile des enfants enrôlés dans les groupes armés, un problème qui persiste dans plusieurs régions de la RDC, du Nord et Sud Kivu, au Grand Bandundu. Malgré les efforts de l'État congolais et des organisations internationales, les recrutements d'enfants restent une préoccupation majeure. Notre magazine a mis en lumière les mécanismes de recrutement, mais aussi les initiatives de démobilisation et de réinsertion dans la vie civile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de Radio Okapi, www.radiokapi.net ou sur notre page Facebook Bana Okapi. Nous remercions chaleureusement l'équipe Bana Okapi qui a rendu cette émission possible. Merci également à Christian Mapendano pour la coordination, à Jean-Marc Matoki Mofelele pour la supervision et à Dieudonné Nyangasa pour la mise en onde. Je suis Sarah Sumbela, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. Ciao.